vous êtes toujours à l'écoute du RESF, hein, Réseau d'éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site RESF, hein, resf.info/radio. Mais ça, faudra attendre quand même quelques jours avant que je la mette en ligne. Et donc, nous sommes toujours avec Catherine Vitold-Vinden et nous allons parler de cette superbe exposition, hein, Frontières, qui se tient actuellement au Musée d'Histoire de l'Immigration. Alors, je vais vous laisser, et qui se tient donc depuis
le 9 novembre.
Depuis le 9 novembre jusqu'au 29 mai.
Absolument.
Voilà, et c'est une exposition à voir, mais je vais vous laisser en parler parce qu'elle est vraiment passionnante.
Merci beaucoup de nous faire une place pour parler de cette exposition qui s'adresse beaucoup quand même à des enseignants, à des élèves, à des associations pour essayer de prendre la mesure de l'importance des frontières dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde d'hier. Et puis aussi le caractère parfois un peu dérisoire de ces frontières qui, finalement, si on se retourne vers le mur de Berlin et vers quelques autres, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont morts pour le traverser. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis et ça nous paraît étonnant qu'il y ait eu des frontières ici ou là. Alors, l'idée de cette exposition, dont je suis co-commissaire avec mon collègue Yvan Gasteau de l'Université de Nice, est partie d'un colloque qu'il avait organisé avec des collègues historiens autour de la région France-Italie, dans cette région du Sud-Est, autour d'un petit village qui s'appelle Grimaldi Superiore, qui est un village qui est au-dessus du poste frontière très connu de Vintimille, où a été fait le film Le Cornio. Donc beaucoup de gens connaissent cette frontière, magnifique d'ailleurs, puisqu'on a une vue très large sur la côte découpée à la fois italienne et française. Et finalement, on s'est dit avec une autre personne du musée de l'immigration qui s'appelle Agnès Arques-Roth qu'on pourrait étendre cette réflexion qui était locale sur terres et gens de frontières à une exposition plus ambitieuse, plus large sur le sujet. Donc on a pris le parti de découper le parcours en trois phases. La première, c'est le monde. La deuxième, l'Europe, et la troisième, la France. Alors, dans le monde, on montre qu'il y a des quantités de murs qui ont été construits dans le passé. On évoque le rempart d'Adrien. Les Romains avaient voulu mettre des limites à leur territoire. La Chine aussi, la Grande Muraille de Chine, que paraît-il, on voit de la Lune. Mais aussi des frontières aujourd'hui très, très importantes parce qu'elles essayent de borner non seulement les territoires, mais aussi de se protéger un peu du désert des Tartares, si j'ose dire. Et on a donc la longue frontière de 4000 km entre la Chine et le Bangladesh, par laquelle l'Inde essaye de se protéger de l'arrivée éventuelle de déplacés environnementaux, mais aussi de gens qui veulent travailler en Inde, et notamment vers Calcutta, venant du Bangladesh. On a la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est la frontière la plus contrôlée, mais aussi la plus traversée du monde. On a quelques 11 millions de sans-papiers aux États-Unis, il faut le rappeler, mais énormément de trafic autour du passage de cette frontière, beaucoup de raquettes, des morts, etc. Ensuite, on a la frontière entre Israël, Cisjordanie, qui est très connue, puisqu'on a 6 millions de Palestiniens qui vivent hors de leur territoire, et puis la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est aussi une frontière très militarisée, et puis d'autres frontières qui ont été très importantes dans le passé, comme précisément la frontière du rideau de fer et notamment sa concrétisation en Europe avec le mur de Berlin. Et puis le début de l'expo, c'est la frontière de la Méditerranée avec les grilleurs de frontières, les haragas qui sur leur zodiaque se prennent en photo sur leur portable. Et il y a un petit film qui a été fait à partir des puces de ces portables par un artiste qui est évoqué d'ailleurs au début de l'exposition. Ensuite, quand on continue notre parcours, on arrive en Europe où on s'aperçoit qu'il y a des quantités de frontières qui ont été construites. D'une part, le découpage en deux de l'Europe pendant la période de la guerre froide, mais aussi toute une série de murs, notamment les frontières extérieures de l'Europe, les fameuses frontières Schengen, qui ont accompagné la libre circulation intérieure des Européens, mais qui a durci les frontières extérieures de l'Europe. Avec les morts aux frontières, on a à peu près 30 000 morts en Méditerranée depuis 2000 jusqu'en 2015. On a toute une série d'instruments de contrôle, de dissuasion, de répression autour de ces frontières extérieures, sur les points de passage, notamment les îles de la Méditerranée, la frontière entre la Turquie et la Grèce, très traversée aujourd'hui par les Syriens. Et puis la Gibraltar dans le passé et également quelques points de passage. Si on ferme là, une autre frontière s'ouvre ici. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la route des Balkans. Et on évoque aussi d'autres frontières qui ont été construites, qui ont disparu. La frontière entre la France et l'Allemagne, par exemple, entre 1870 et 1914, qui a été une des frontières les plus douloureuses pour la population française, qui a donné lieu d'ailleurs à la guerre de 14. D'autres endroits comme ça, sensibles des frontières de l'Europe, devenue ensuite l'Union européenne, avec des frontières qui demeurent. Calais, par exemple, on évoque Calais entre le Royaume-Uni et la France, la jungle, etc. Et donc tout ça peut paraître complètement dérisoire d'une certaine façon si on se prolonge dans le futur et aussi dans le passé. Mais aujourd'hui, elles sont dans la peau, si j'ose dire, des gens, parce que ça les marque définitivement dans l'errance dans laquelle ils se trouvent face au tracé parfois absurde de ces frontières. Ensuite, on arrive en France. Alors, on a toute une série d'évocations, pas seulement des cartes, beaucoup de cartes, des objets aussi qu'on a essayé de mettre en scène, beaucoup de photos, des lettres, des journaux. On a un mur de journaux qui évoque les morts en Méditerranée, les catastrophes, des journaux en plusieurs langues européennes, notamment françaises, italiennes, anglaises, allemandes, etc. Surtout ce qui se passe autour de ces frontières extérieures et surtout autour des drames qui s'y passent. Et puis ensuite, un mur de livres aussi qui évoque dans plusieurs langues européennes les frontières. Et puis ensuite, on arrive à la France et à toutes ces frontières qui ont construit son histoire en montrant l'évolution du tracé. Les frontières sont toujours évolutives. Et également, par exemple, la frontière entre la France et l'Italie, qui a été aussi un lieu de passage clandestin. Les hommes et les gens de la frontière, le douanier, le passeur, le contrebandier, le grilleur de frontières aujourd'hui. Et puis également des frontières auxquelles on ne pense pas, mais qui sont très importantes, comme par exemple la Guyane. Il y en a une autre aussi dont on ne parle pas, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout dans l'expo, à Mayotte. Parce que les gens essayent des Comores, donc de passer à Mayotte, qui fait partie aujourd'hui du territoire français. Mais la Guyane, c'est une très longue frontière, c'est la plus longue frontière ultramarine de la France, notamment avec le Suriname et le Brésil. Et comme beaucoup de frontières, elle est absurde, puisque c'est le lieu d'activité économique du pays à travers tout le commerce qui se joue sur les fleuves. Et ces fleuves, Oyapock notamment, sont des lieux de contrôle frontalier. Donc, on est dans ce contexte. Et puis, on termine par une évocation à la fois associative, militante, mais aussi onusienne, d'un monde sans frontières, de tout ce que peut représenter la valorisation du droit à la mobilité comme droit de l'homme du XXIe siècle, les tentatives de gouvernance mondiale des migrations qui considèrent que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain et qui peut être considéré comme un bien public mondial. Donc aujourd'hui, il y a tout un débat sur le bien fondé de ces frontières, sur ce que pourrait apporter une autre approche, effectivement, de ce contrôle des frontières si on retournait finalement à la période qu'on évoque d'avant la guerre de 14, où Stefan Zweig, par exemple, parlait dans Un monde d'hier, d'un monde qui était complètement libre. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le système s'est renversé. Pendant très longtemps, pour beaucoup de gens, pour la plupart, il était difficile de sortir de chez soi. Et aujourd'hui, il est difficile d'entrer ailleurs. Depuis 1990, on a eu une rupture essentielle qui a été la mondialisation de la possibilité d'avoir un passeport. Et en même temps, le monde à l'entrée s'est refermé. Donc, il est très facile de sortir de chez soi maintenant. Mais donc, il y a un droit d'émigrer mis en œuvre, mais en même temps, le droit d'immigrer, c'est-à-dire d'entrer quelque part, est devenu de plus en plus difficile. Donc, le monde d'hier est inversé par rapport à celui de Stefan Zweig. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est d'entrer quelque part dans un monde de plus en plus frileux à l'égard de ses frontières. Certains même demandent de rétablir les frontières nationales à l'intérieur de l'espace Schengen et de sortir un peu des tentatives de construction d'espaces migratoires régionaux qui se sont développés à travers le monde, pas seulement en Europe.
Oui, et donc là, tout ce que vous dites là est représenté et montré par des séries de cartes,
absolument,
de textes, d'objets, d'œuvres d'art.
Oui, oui, absolument. On en a plusieurs qui sont très belles. On a notamment cette borne de Brancusi. On a ce globe également très aérien de papier qui représente le monde qui tourne dans toute sa légèreté, qui évoque aussi le monde fluide qu'évoquent des philosophes comme Kant, la citoyenneté universelle, mais aussi Sigmund Bauman qui dit qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt réfléchir à la fluidité de la circulation des hommes plutôt que de mettre des barrières, des frontières et des interdictions.
Ouais, et donc, il y a toutes sortes de choses. Et moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans cette expo, hein, qui est absolument passionnante, parce que, en ce qui me concerne, j'étais là voir deux fois. Une première fois, une heure, dans le cadre d'une visite, enfin, en plus, avec un guide. Et une deuxième fois, ben, je suis venu avec mon petit carnet et j'y suis resté un peu moins de 3 heures. Dans l'idée d'y passer une heure, pas plus, et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais passé tout ce temps-là. C'est donc pour nous tous qui s'intéressons à la frontière, ou tout ce qu'on voit avec RSF, avec toutes les questions des sans-papiers, des sans-papiers ou des trop de papiers, enfin pas les bons papiers, avec tous ces problèmes de liberté de circulation, de liberté d'installation, ou plutôt d'absence de liberté de circulation ou de restriction des libertés de circulation, d'installation. C'est quand même une exposition qui permet de beaucoup mieux comprendre les choses, d'une part dans le sens de la logique, hein, de l'histoire de la frontière, donc de la logique de la frontière dans le temps, et comment un certain nombre de choses s'imbriquent avec les frontières et s'imbriquaient et toute cette évolution.
Tout à fait. Et on montre aussi ce que pouvaient être ces frontières contrôlées, par exemple dans la période de l'Alsace-Lorraine, de la Berlin aussi, avec des entretiens. On a plusieurs personnes qui ont été interviewées. Une de mes collègues qui a vécu, qui était à l'époque yougoslave, qui a quitté le bloc de l'Est pour vivre en Europe de l'Ouest, qui a vécu à Berlin avant et après le mur et qui raconte ce que ça a pu représenter pour sa vie quotidienne. Il y a aussi un jeune Afghan de Calais qui est interviewé. Il y a un frontalier qui parle de sa frontière comme ressource aussi, puisque la frontière, sa traversée, ça permet de trouver un travail ailleurs qu'il ne trouverait pas en France, de la région Lorraine, par exemple. Donc, on a essayé de concrétiser ces gens de la frontière de diverses manières. Et puis aussi, on évoque des films. Il y a eu beaucoup de films sur les frontières. Je parlais tout à l'heure du Cornio, mais il y a Welcome, par exemple, sur la traversée de la Manche en 2009. Et on en a beaucoup d'autres qui évoquent aussi les douaniers, etc., avec Fernandel. Donc, on a essayé de mettre en scène la frontière de façon visuelle, de façon palpable, en essayant de mettre des cartes, des photos, des objets, des affiches et toute une série de suggestions de cette frontière à travers le monde et surtout en Europe et en France.
Et une des choses qui sont... Bon, cette exposition suscite plein de questionnements et en même temps, on va la voir, on a déjà des questionnements, c'est pas, sinon on n'irait pas la voir, sur ce qu'est une frontière. Et elle montre bien, et ça c'est par ça que vous aviez commencé, comment on est une frontière, c'est un espace vécu.
Tout à fait.
Il y a des gens qui vivent à la frontière, qui sont des frontaliers, et traverser une frontière, c'est aussi vivre une frontière.
Tout à fait. Et puis, il y a des frontières qui ont disparu. Il y a des frontières qui se sont renforcées, la Méditerranée, puis il y a des frontières qui ont disparu. On évoque la différence de conditions, par exemple, entre les Portugais, qui ont été longtemps des sans-papiers, ce qu'on oublie en France, hein, qui traversaient les Pyrénées, ce qu'ils appelaient Usalto. Il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. Et puis, alors que les Algériens passaient librement entre la France et l'Algérie, quand elle était département français, sur des bateaux qui les attendaient à Marseille et à Alger. Donc pour eux, c'était très simple. Aujourd'hui, ça s'est inversé, puisque les Portugais étant européens ont la liberté de circulation, alors que les autres doivent montrer des visas. Et donc, les frontières aussi sont changeantes, si j'ose dire, selon les contextes politiques dans lesquels on s'inscrit. On a essayé de montrer ça aussi, tout le côté un peu absurde, un peu dérisoire, un peu contingent de ces frontières.
Oui, on le voit très bien. En même temps, c'est totalement absurde. Et on voit aussi, d'ailleurs, il y a un film qui est vraiment intéressant sur ce fameux bateau dont on a beaucoup parlé dans cette émission, hein, qu'on a appelé par la suite Left to Die, avec un film qui est très documenté.
Tout à fait. Les boat people, les camps aussi. On évoque un peu tout ce monde qui découle de la fermeture des frontières.
Ouais, et tous les gens, on parle aussi des gens qui interviennent, des militants.
Absolument, de Calais. Il y a beaucoup de photos sur la jungle de Calais, par exemple, et sur ceux qui sont là, qui interviennent. Donc on essaye de aussi s'adresser à, pas seulement à un public scolaire, mais à un public d'associations qui peuvent être potentiellement intéressés par cette mise en évocation de la frontière. Il y a un livre qui est ce qu'on appelle le catalogue de l'exposition, qui est un livre qui est paru chez Magellan, qui recueille un certain nombre de textes, notamment de la part des gens qui ont fait partie du conseil scientifique de l'exposition. Donc on a eu le concours de chercheurs étrangers, notamment des Italiens, qui étaient aux premières loges pour Lampedusa, qui nous ont envoyé beaucoup de coupures de journaux et qui ont écrit dans ce livre l'équipe de la Sapienza à Rome. Ensuite, on a Michel Fouché, qui est un géographe spécialiste de la frontière. Anne de Tinguy, qui a beaucoup travaillé sur l'ouverture à l'Est. Donc, on a Anne Dumazier, qui a beaucoup travaillé sur les frontières franco-allemandes et leur évolution. Donc, on a toute une série de gens qui nous ont accompagnés pendant ces 2-3 années pour produire cette exposition et la rendre lisible. Parce que la difficulté, c'est toujours pas rester dans l'abstrait et mettre en scène, évoquer toutes ces situations de frontières.
Non, mais on est vraiment, vraiment dans le concret. Et encore une fois, on voit cette évolution. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à des nuages. Les nuages, on ne sait pas très bien comment les nuages dans le ciel vont évoluer, mais ils évoluent, c'est jamais les mêmes. Et là, c'est un petit peu l'effet que cette exposition... L'effet visuel que m'ont fait les frontières après avoir vu cette exposition, on a des frontières qui se baladent, qui sont à des lieux où aujourd'hui on n'imaginerait pas qu'il y ait une frontière. Demain, on peut se dire qu'il y aura une autre frontière. Après tout, peut-être que quand on traversera la Nationale 20, donc entre le 92 et le 94, ou quand on passera le périphérique, il faudra peut-être un jour sortir son passeport. Enfin, ça, c'est un effet que m'a fait cette exposition. Ça n'est pas montré comme ça.
J'en profite pour dire que, par exemple, en Chine, on a encore 240 millions de migrants internes, donc autant que de migrants internationaux dans le monde. Et il y a 100 millions de personnes qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux, de circuler librement. Il y a 100 millions de sans-papiers chinois en Chine, ce qui rend d'ailleurs la main-d'œuvre particulièrement intéressante et compétitive à l'international. Parce que précisément, il y a des passeports intérieurs. Le Hukou est un des passeports qui a subsisté au contrôle de la circulation des populations qui existait avant en URSS, la Propiska. Il y a quelques autres contrôles intérieurs qui étaient beaucoup plus anciens, qui étaient aussi bien la France de l'Ancien Régime que des périodes où on maintenait la population sur place. Donc 100 millions de sans-papiers en Chine qui sont astreints à une logique de frontières de circulation soumise à la bonne volonté des pouvoirs publics.
La frontière de l'intérieur. Et sinon, donc, quand on entre dans cette... Il y a aussi la scénographie qui, moi, j'ai trouvé très, très intéressante. On entre, c'est un petit peu comme si on passait une frontière, et on arrive sur ce fameux mur de bateau. Ah, oui. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, parce que on voit comment les gens, dans quel état d'esprit sont C'est, en l'occurrence, c'est des jeunes hommes, hein, ce n'est pas les familles qui fuient de Syrie, mais qui partent, je crois, de Tunisie.
Oui, ou d'Algérie, ce qu'ils appellent des grilleurs de frontières, des haragas. Et on voit qu'ils sont jeunes, ils sont très enthousiastes. C'est la frontière. La frontière, elle peut aussi libérer. Bien et ça, sûr, c'est très important. Ça libère les demandeurs d'asile, parce qu'une fois qu'ils ont passé la frontière, ben, ils ont, en principe, franchi une étape très importante dans leur existence. Ils fuient la torture, la persécution. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas la torture et la persécution, c'est plutôt des gens qui fuient l'absence d'avenir, donc qui ont décidé de griller la frontière en venant de la rive sud de la Méditerranée pour se donner un projet pour eux-mêmes, en passant la frontière et en essayant de traverser sur un frêle esquif, en l'occurrence souvent des zodiaques, la mer Méditerranée. Il y a beaucoup de morts, comme je l'ai dit, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pleins d'espoir et qui sont jeunes.
Et puis il y a une frontière aussi, un panneau qui m'avait... Bon, ça on a parlé de la frontière entre le Bangladesh et l'Inde, la frontière avec le Mexique, l'Israël, mais il y a une frontière qui est... avec des images aussi qui sont tout à fait intéressantes, c'est la frontière en Corée.
Tout à fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, la fameuse frontière KMZ, qui est une frontière politique, qui est un des restes de la guerre froide, qui est très contrôlée, et qui est également une frontière, un passage rêvé pour les Coréens du Nord, que d'aller dans le sud du pays.
Et puis il y a d'autres aussi. Enfin, ça, c'était. Moi, j'ai visité cette exposition. En fait, quand je l'ai visité, j'ai pris quelques notes comme ça de choses qui m'avaient. Il y a donc des images aussi d'exode des Belges qui vont vers la France.
Ah oui, absolument.
Et qui montrent quand même que eh bien, ce qui a posé problème en 14, c'était 300 000 Belges qui viennent en France.
Et tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'était un lieu de travail. Déjà, Zola en parle dans Germinal. Et le passage de la frontière, c'était un moyen de trouver du travail. Il y a beaucoup de cartes postales sur les Italiens à Modane aussi.
Ouais.
Arriver à Modane, c'était trouver du travail. Donc, c'était également un espoir de sortir de la misère dans laquelle on était.
Et puis, on montre bien aussi donc ça, les frontières qui bougent. Donc il y a des frontières, on l'a un petit peu évoqué, mais qui sont extrêmement parlantes. C'est qu'on voit les frontières, on parle des frontières d'État. Or, les choses se sont peut-être un petit peu sont un peu plus complexes que ça. Je ne veux pas dire sont complexifiées, mais les frontières de bloc.
Bien sûr.
Qui sont bien mises en avant.
Tout
donc il y a le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest,
oui.
On en a parlé. Mais donc on voit bien ce qu'était le pacte de Varsovie.
Oui, le rideau de fer.
L'OTAN aussi.
Oui,
qui
est une,
donc on voit... notamment pour le contrôle des frontières, la Turquie fait partie de l'OTAN, quand même.
Oui, absolument. Et puis le système des visas, aujourd'hui, c'est la concrétisation de la frontière à distance. C'est une frontière qu'on ne voit pas, dont on parle dans l'exposition, mais c'est une frontière très importante, puisque c'est elle qui conditionne la liberté ou pas de circuler. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, une des plus grandes inégalités, c'est, en fonction de sa nationalité, le droit ou pas de circuler sans visa. Donc les premiers, c'est les Anglais, avec les Danois, qui peuvent circuler dans 174 pays sans visa. Et puis les derniers, c'est toute une série de pays africains qui sont considérés comme des pays à risque migratoire et qui peuvent circuler dans très peu de pays sans visa. Donc là, c'est une vraie inégalité à l'échelle mondiale, selon qu'avec la nationalité qu'on a, on peut ou pas circuler librement ou pas. Et donc, si on est soumis à un visa et qu'on a de grandes difficultés pour entrer dans les catégories de ces visas, eh bien, on n'a plus qu'une autre solution qui est l'immigration irrégulière et l'appel aux passeurs.
Et puis, on voit aussi donc quantité là aussi d'images, de textes, de films. Et notamment, il y a toute une chronologie de Schengen.
Absolument.
Et qui est vraiment intéressante à décortiquer.
Tout à fait, puisqu'en fait, ce qu'on ne sait pas parfois, c'est qu'il n'y a pas de superposition parfaite entre les pays de l'Union européenne et les pays de Schengen. On a 26 pays qui font partie de Schengen, 28 pays dans l'Union européenne. Mais on a aussi des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne qui sont dans Schengen, comme par exemple la Suisse, la Norvège, l'Islande. Et puis des pays qui sont dans l'Union européenne, comme le Royaume-Uni et l'Irlande, mais qui ne sont pas dans Schengen. Donc les deux ne se superposent pas. Et ça crée des nouvelles fractures, comme on voit à Calais. Pourquoi il y a Calais ? Parce que... précisément, la frontière de l'Union européenne ne coïncide pas avec la frontière de Schengen. le Royaume-Uni n'en fait pas partie et donc la France assume, si j'ose dire, le fait que le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen.
Et on parle aussi, on voit aussi des choses tout à fait intéressantes et des documents qui émanent d'associations, d'une association qui est un petit peu ancienne, qui est la CIMAD.
Absolument.
Et qui sont... Bon, c'était
le comité des évacués de la ligne Maginot et des déplacés, donc, et qui a été créé pour essayer de trouver une solution aux personnes qui se retrouvaient sans maison, sans territoire, qui étaient dans la zone qui avait été définie par la ligne Maginot. Et c'est de là qu'est née la CIMAD, qui ensuite s'est intéressée à d'autres types de déplacés que les nationaux, et qui s'est intéressée à l'immigration.
Voilà, et c'est donc là on voit quelques rapports, notamment de la CIMAD, j'en pense à un qui est, je crois, de 57 ou 1957, qui est...
C'était les évacués, oui, de la ligne qui étaient liés à la construction de la ligne Maginot, oui.
Ouais,
et donc dans l'est de la France.
Et on n'oublie pas non plus les frontières. Alors ce grand paradoxe, hein, des frontières extérieures qui se retrouvent à l'intérieur des États, comme par exemple les zones d'attente.
Absolument. Alors ça, il y a aussi ça. Il y a tout le monde des zones d'attente, des centres de rétention dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des frontières invisibles parfois, mais très présentes dans la vie des gens, comme on l'a vu dans l'entretien de tout à l'heure. Ça aussi, c'est un marquage de la frontière. La frontière de la dissuasion, on a évoqué les visas, il y a des quantités de formes d'externalisation de la frontière ou d'internalisation de la frontière, dont soit elle est en amont, soit elle est en aval. Elle n'est pas toujours sur le point géographique de la frontière, elle se situe soit avant, soit après le passage de la frontière.
Voilà, donc c'est une exposition à voir absolument. Peut-être un dernier mot avant qu'on passe à notre agenda ?
Oui, simplement pour montrer l'actualité, puisque de ce sujet, quand on a commencé à défricher la thématique de la frontière, il n'y avait pas une telle actualité de ce sujet. Et disons que les événements nous ont rejoints pour souligner la nécessité de réfléchir sur les frontières. Il y a aussi des sujets dont on n'a pas parlé volontairement, parce qu'on ne peut pas parler de tout. On n'a pas parlé des frontières des discriminations, les frontières des banlieues, etc., qui sont aussi des frontières, pas seulement en France, mais aussi dans le monde entier, qui marquent toute une série d'inégalités, pas celles seulement du franchissement de la frontière.
Voilà, donc si on s'intéresse un petit peu aux frontières, elle est accessible, je veux dire, à tout le monde en plus, cette exposition, parce qu'on y va avec des enfants, soit avec une classe, soit avec ses enfants, avec des enfants, elle est passionnante. Et sinon, on est soi-même chercheur et elle est passionnante aussi.
Voilà, puis aussi pour tous âges, parce qu'il y a des tas de gens qui ont vécu toute une série de frontières qu'on évoque, comme le mur de Berlin, comme la frontière franco-italienne et le passage des sans-papiers italiens, ou alors des Portugais à travers les Pyrénées, etc.
C'est une exposition donc à voir, hein, maintenant jusqu'au 29 novembre. 29 mai.
Heureusement.
Elle sera peut-être prolongée jusqu'en novembre. Hein.
On verra. On espère.
Voilà, donc on va tout de suite passer à notre agenda maintenant. Hein, donc, c'est